This is Radio Free Europe.
Brutus in Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir au Japon, en Allemagne, en Pologne, ailleurs dans le monde. Le journal de l'international tout à l'heure avec Mickaël Thébault. Culture et politique. Mathieu Culeron à la rencontre d'artistes brésiliens. 18h55. Où en est l'Espagne? Les dernières infos sur la crise politique que traverse le pays dans l'édito, signé ce soir Anthony Bélanger. Mais tout de suite, le Gabon.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Le Gabon aux prises avec la violence au lendemain de la réélection contestée d'Ali Bongo. Ce dernier dit l'avoir emporté de quelques milliers de voix sur Jean Ping, dont les partisans sont descendus dans la rue et ont été violemment réprimés. Et maintenant, que va faire Ali Bongo? Va-t-il accepter la transparence sur les résultats qu'exige la France afin de réconcilier les Gabonais? On pose ces questions à Antoine Glaser. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, écrivain, grand spécialiste de l'Afrique. Le scénario, Antoine Glaser, le scénario du chaos, est-ce qu'il vous surprend?
Non, on peut pas dire que ça soit vraiment une surprise, même si c'est vrai que Jean Ping, le candidat de l'opposition, était vraiment porté non seulement par d'autres anciens barons du régime comme lui, mais aussi par la société civile gabonaise. Mais le fait qu'Ali Bongo veuille absolument se maintenir au pouvoir, c'est pas vraiment une surprise. C'est l'ancien ministre de la Défense, c'est un sécurocrate pour faire un peu court. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une revanche personnelle en plus à prendre sur Jean Ping. Donc il y a un aspect politique, bien évidemment, de vouloir absolument se maintenir au pouvoir. Mais Jean Ping étant son ancien beau-frère à une époque où Pascaline, qui était sa sœur, vivait avec Jean Ping, a eu deux enfants. Il y a une sorte de revanche, ça veut dire lui était le mal-aimé de l'époque Omar Bongo. Et lui veut absolument se maintenir au pouvoir.
Donc c'est une histoire de famille et d'ambition politique.
C'est une histoire en même temps de famille, d'ambition politique, contrairement à ce que souvent on croit, même s'il est effectivement il a succédé à Omar Bongo, mais du temps d'Omar Bongo, finalement c'était un peu le mal-aimé. Quand on allait à ce qu'on appelle le palais du Bornemer à la présidence au Gabon, Ali Bongo était plutôt au bout du couloir, c'était la sœur Pascaline, avec Jean Ping qui était au cœur du système, et la sœur était la directrice du cabinet, avait l'ensemble des financements de la trésorerie de l'État, et le père s'appuyait beaucoup plus sur la sœur. Donc on ne peut pas dire que c'est pas uniquement pour ça qu'il veut se maintenir au pouvoir, mais il ne faut pas oublier que, contrairement à ce qu'on s'imagine, Ali Bongo n'est pas le successeur dans le sens de la gestion du pays. Omar Bongo gérait le pays avec la manne pétrolière à l'époque où il était à 100 ou 150 dollars le baril et redistribuait, rachetait le mécontentement avec tous ses adversaires. C'était vraiment la carotte. Avec Ali, c'est le bâton. C'est un homme de sécurité. Son père l'avait nommé ministre de la Défense pour se garder un petit peu. Mais en fait, c'est quelqu'un qui était quand même marginalisé à cette époque. Maintenant qu'il est au pouvoir, à mon avis, il a une revanche à prendre sur tous ces barons du Parti démocratique gabonais qui le tenaient à bout de garde pendant la période de son père.
Le scrutin, Antoine Glaser, vous a semblé moyennement sincère ou massivement truqué?
C'est-à-dire le scrutin, maintenant vous avez quand même des systèmes biométriques. Il y a des systèmes, il y a beaucoup, évidemment, d'année en année, il y a un verrouillage, c'est-à-dire au niveau électoral, vous avez une mobilisation, il y a l'Union européenne qui était présente, les observateurs, et c'est vrai qu'on a bien vu que finalement, pour Ali Bongo, la variable d'ajustement électoral, c'est toujours sa région du Haut-Ogooué. Et franchement, quand il y a un écart de 5594 voix, et puis brusquement arrive à la dernière minute dans sa région 73 000 voix, je veux dire, c'est un peu fort de café, même si c'est pas la production du pays.
Et les organismes de contrôle sont de toute façon aux mains du pouvoir. Ce ne sont pas des instances indépendantes.
Si, mais enfin, il y a une critique. Ça veut dire, ça c'est là encore une fois, faut pas. C'est pas non plus comme c'était dans le temps où voilà, le type rédigeait procès-verbal, sortait de son chapeau. C'est vrai que maintenant, il y a quand même un processus électoral, mais l'Union européenne qui a été les observateurs de l'Union européenne, il y a un rapport préliminaire extrêmement circonstancié et qui montre que globalement, la gestion finalement de tous les organes des élections était quand même aux mains du pouvoir. Donc il y avait une critique que l'ensemble de la campagne a été que Ali Bongo a utilisé tous les médias d'État. Mais encore une fois, la preuve que finalement la fraude est beaucoup moins importante que dans le temps, c'est que finalement lui il sort avec 49,8 et il y a 48,23% pour Jean-Ping. Donc évidemment l'opposition, quand il voit arriver à la dernière minute les 13 000 inscrits, ça veut dire que dans toute cette région du Haut-Togo, il y aurait même pas eu il y a eu que 50 personnes qui n'auraient pas été votées. C'est totalement invraisemblable.
Que diriez-vous de la position de la France quand le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, demande à ce que l'ensemble des documents autour du scrutin soient publiés? C'est le minimum ou le maximum que peut faire la France?
Il y a quand même une certaine évolution. Ça veut dire que la France, dans un premier temps, le Quai d'Orsay s'est réfugié derrière la position de l'Union européenne, qui est vraiment en flèche depuis le début dans ce pays, avec une déléguée extrêmement offensive sur le plan de la gestion démocratique en Afrique. Mais c'est vrai que, bon, pour une fois, la France n'a pas avalisé comme ça l'élection. Et le fait de demander, comme les États-Unis et l'Union européenne, de demander à ce qu'il y ait un comptage bureau de vote par bureau de vote, c'est quand même quelque chose qui est relativement important.
Et vous pensez que Ali Bongo va pouvoir se sortir, je dirais, de l'ensemble des dispositifs que vous venez de décrire?
Moi, je pense qu'Ali Bongo est dans un processus de bunkérisation. Ça veut dire, en plus, c'est pas quelqu'un qui a des soutiens dans la région. Le Congolais Denis Sassou Nguesso, le président, l'aime pas beaucoup. Le président de Guinée-Équato, Obiang, en fait, n'a jamais aimé Ali, parce que quand Ali était ministre de la Défense, il avait revendiqué, il avait débarqué sur une île que revendiquait la Guinée équatoriale. Bref, il est isolé dans la région. D'ailleurs, on n'entend pas du tout, comme on l'a connu dans d'autres pays, une proposition de médiation africaine à l'heure où l'on parle. Et puis, deuxièmement, l'Union africaine, on l'entend absolument pas. Au niveau international, il est relativement isolé, mais encore une fois, c'est pour ça que moi j'insiste un peu sur l'aspect psychologique aussi. Il a une revanche à prendre, il s'est vraiment bunkérisé. Du temps du père, il avait même créé un mouvement qui s'appelait les rénovateurs, les rénaux, qui étaient contre les barons, contre les caciques du régime. Donc, vous savez, c'est comme en Afrique, il y a l'Afrique de jour, l'Afrique de nuit. Nous, on voit l'Afrique de jour, mais l'Afrique de nuit, il y a un vrai combat contre ces caciques et, encore une fois, au sein de la famille.
Mmh. Revenons sur place et sur les événements qui ont lieu en ce moment au Gabon. Que vous disent, vous n'y êtes pas, hein, Antoine Glaser, mais que vous disent vos contacts sur place de l'atmosphère qui règne, notamment à Libreville, mais dans d'autres endroits du pays aussi?
Parce que, habituellement, là où ça pète le plus fort, c'est à Port-Gentil, qui est la seconde ville du pays, parce que c'est la ville pétrolière. Et avec la chute du prix du pétrole, avant même les élections, il y a déjà une détention sociale extrêmement importante. Au niveau du budget de l'État, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas payées. Donc il y a un climat social et économique déjà très dégradé actuellement dans ce pays. Et c'est vrai qu'on attendait que ça pète à Port-Gentil. Bon, ça pète directement à Libreville. Mais il faut pas oublier, là par contre, actuellement, c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Je veux dire, Ali Bongo se prépare, il a un matériel avec des policiers, c'est une garde présidentielle très très importante. Et c'est vrai que, voilà, pour l'instant, le QG, le quartier général de Ping est encerclé avec tous les gens qui le soutiennent, tous les barons et les anciens barons du PDG qui sont en dissidence. Ils sont 20 ou 30 et évidemment, ils sont encerclés. Voilà, il va attendre, à mon avis, il va les verrouiller. Il dit, vis-à-vis de l'extérieur, il dit qu'ils sont pas en prison, mais ils sont totalement encerclés. Il peut les affamer dans les jours qui viennent.
Il paraît, Antoine Glaser, que des hélicoptères survolent la ville, Libreville. Qui est à bord?
Alors ça, c'est la grande question. Ça veut dire encore dans la journée, on peut imaginer que les pilotes, mais soit des pilotes gabonais, mais c'est vrai qu'en tout cas les Pumas ou ce genre d'hélicoptères qui sont intervenus cette nuit, on peut s'interroger. Mais encore une fois, il faut pas se leurrer. Nous, on voit toujours la France-Afrique et l'Afrique-France. Mais vous savez, Ali Bongo, il a des relations dans le monde entier. Et il est très proche, par exemple, des Marocains. Je ne veux pas dire qu'il y a des pilotes marocains, mais je veux dire, il est très proche de M6, il est très proche de Sud-Africains, à qui il a fait beaucoup de matériel. Et donc, il peut avoir n'importe quel Nord-Coréen ou autre. Je veux dire, c'est pas, il y a une diversification en Afrique qu'on mesure mal. Il y a la France contrôlait ce marché gabonais à 50% dans les années de 70-80 du papa. Maintenant, ils sont à 20%. La France a de moins en moins quand même d'intérêt au Gabon. Les gens se focalisent sur le pétrole parce que c'est le pays du pétrole. C'était bien du temps de l'affaire Else, mais là, Total a plus d'intérêt au Nigeria, en Angola, que dans le petit Gabon. Mmh. Faut pas se leurrer. Hein.
Antoine Glaser, quand vous soulignez qu'il y a une relation féconde et amicale entre Ali Bongo et Mohamed VI, le roi du Maroc, la relation entre les pères était d'ailleurs une relation aussi très forte entre Omar Bongo et Hassan II. Que je vous pose la question des hélicoptères, que vous me répondez ça, ça voudrait dire quoi? Qu'il pourrait y avoir des forces étrangères qui survolent et qui font de la police pour Ali Bongo?
Ça voudrait dire simplement qu'on se focalise toujours sur le... C'est vrai que la France a trop longtemps, et le fait encore, avoir des Français toujours dans la garde ou à la garde présidentielle. Enfin, eux, ils appellent ça la garde républicaine. C'est moi qui appelle ça la garde présidentielle. Et aussi dans la police, etc., souvent pour faire regarder ce qui se passe et faire du renseignement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un pays comme le Gabon est maintenant totalement mondialisé. Ali Bongo a des relations, il est président de la communauté musulmane, il y a beaucoup de relations dans le Proche et le Moyen-Orient, beaucoup de relations aussi dans tous les pays anglo-saxons, il passe plus de temps à Londres qu'à Paris. Mmh. Donc il faut pas, s'il a besoin
d'un coup de main militaire,
coup de main militaire, il peut trouver en dehors des Français.
Antoine Glaser, quel a été dans cette élection, on en a souvent parlé d'ailleurs avec vous dans cette émission sur France Inter, quelle a été la position de la jeunesse, de la classe moyenne éduquée lors de cette élection?
Alors ça, c'est vraiment le truc vraiment qui est vraiment nouveau en Afrique. Ça veut dire que vous avez, comme au Burkina Faso, au Sénégal, vous avez, par rapport au régime, vous avez souvent des présidences les chefs d'État se bunkérisent, plus restent au pouvoir, plus se bunkérisent avec leur clan et avec leur premier cercle, souvent familial et clanique. Et bien évidemment, il y a les dissidents, ce sont des anciens barons du régime qui sont frustrés et qui passent dans l'opposition. Ça s'est vu avec Roch Kabore, l'actuel président du Burkina Faso, Macky Sall, qui était aussi président qui est maintenant président du Sénégal, qui était avec Abdoulaye Wade. Et à partir de ce moment-là, ils sont soutenus par des jeunes, par une société civile extrêmement active. Alors, Burkina Faso ou Sénégal, ils sont plus conscientisés, comme on disait, mais ils ont plus politisé. Au Gabon, vraiment, ça émerge, hein, la société civile. Et là, pour la première fois, on a vu quand même, alors que l'opposition était toujours divisée, on a vu quelques barons du régime, Casimir Yemba, président de l'Assemblée nationale, Zuma Dama, rejoindre Jean Ping, et toute la société civile, soutenir Ping. Donc c'est ça les vrais changements en Afrique. Ça se fait pas directement comme ça a pu se faire chez nous avec des révolutions, avec des jeunes, etc. Mais il y a un passage comme ça de relais qui est en train de se faire. Et c'est pour ça que Ping, qui est quand même un classique de l'ancien régime, qui est quasiment l'usufruitier quand son ex-compagne était assis sur un tas d'or. Maintenant, c'est vrai qu'il est soutenu par la société civile avec cette volonté de changement, et c'est eux qui sont descendus hier soir dans la rue.
Dernière question, Antoine Glaser. Est-ce que vous nous avez dit clairement que, d'après vous, Ali Bongo s'accrochera au pouvoir et ne le lâchera pas. Est-ce que vous pensez que la violence peut monter encore au Gabon suite à cette élection controversée, ou qu'il va y avoir plutôt un scénario tentative d'encerclement, comme vous le disiez, de pourrissement, d'affaiblissement de l'opposition?
C'est très difficile. Hein. Moi, je suis le petit blanc des bords de Seine. Hein. C'est très difficile, mais compte tenu de la nature du régime d'Ali Bongo, je le vois vraiment, lui, aller jusqu'au bout. Et d'autre part, de l'autre côté, c'est vrai que l'opposition pense qu'ils se sont fait voler leur victoire. Ils attendent un changement depuis très longtemps. Et donc, je pense que malheureusement, je crains quand même que les affrontements se poursuivent.
Merci Antoine Glaser, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Merci pour cette analyse à chaud sur la situation au Gabon. Plus d'informations sur ces événements dans le journal de 19h de Sébastien Paour. À suivre la revue de presse des correspondants de France Inter, juste après Mellow Yellow de Donovan, 18h31.
I'm just mad about saffron. Well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow.
They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. I'm just mad about 14. A 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. A wind of velocity nil. Born a high forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow. Quite rightly. They call me mellow yellow.
Mellow Yellow sur Inter,
18h34.
Revue de presse internationale.
Londres, Franck Metron, France Inter.
Bonsoir Omar Waman.
Berlin,
bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Bonsoir Marc Crépin.
Bonsoir
Frédéric Carbone, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous.
La revue de presse des correspondants de France Inter est de retour. C'est l'un des grands plaisirs de la semaine. Avant de filer à Berlin, retrouver Cyril Sauvageau, direction Beyrouth. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Nicolas.
Heureux de vous retrouver. La presse chez vous Omar est ce jeudi très largement dominée par l'actualité syrienne et par cette guerre interminable qui se déroule aux portes du Liban.
Oui, les journaux libanais consacrent encore une fois de très nombreux articles sur cette guerre syrienne et ses multiples rebondissements. Al-Diyar, quotidien arabophone, publie aujourd'hui en une photo de soldats turcs sur la ligne de front dans le nord de la Syrie avec ce titre « La Turquie dit non ». Non à une trêve contre les Kurdes et de revenir très longuement sur les informations contradictoires qui annonçaient un cessez-le-feu entre Ankara et ses ennemis de longue date. Al-Diyar explique que si la Turquie est entrée en guerre, ce n'est pas pour y mettre fin quelques jours après.
Et le maître mot, Omar, pour illustrer cette situation, c'est réel politique.
Oui, ou pragmatisme pour l'hebdomagazine hebdomadaire francophone. Nous assistons en fait à un poker menteur entre Moscou, Ankara et Téhéran, poker dont les Kurdes seraient les laissés pour compte. La Turquie ne fait plus du départ de Bachar el-Assad une priorité, mais en contrepartie, ces avions ont toute la latitude pour survoler le ciel du nord de la Syrie et pour frapper les positions de Daesh et surtout celles des Kurdes afin de contrecarrer leur projet de créer une région autonome dans le nord syrien. Toujours selon l'hebdomagazine, nous assistons en fait à la naissance d'un nouvel axe composé de la Russie, de l'Iran et de la Turquie pour faire face à l'influence de Washington et de l'Europe dans la région. D'après l'hebdomagazine, un sommet tripartite réunissant Moscou, Ankara et Téhéran serait dans les tuyaux.
Et puis la presse libanaise, Omar, revient aussi très largement sur le parcours d'Abu Mohamed al-Adnani, le porte-parole du groupe État islamique qui a été tué dans une frappe en début de semaine.
Oui, frappe dont les États-Unis et la Russie se disputent la paternité. Quoi qu'il en soit, la mort d'Adnani est un événement majeur, souligne Lorient Le Jour. Ce vétéran de la guerre d'Irak avait 25 ans lorsque George Bush a lancé sa guerre pour chasser Saddam Hussein du pouvoir. Adnani, ouvrier dans le bâtiment près d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, franchit la frontière et devient l'un des premiers combattants étrangers à se rendre en Irak pour combattre les forces américaines. C'est son expérience irakienne qui a permis à ce Syrien de rencontrer en prison Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi, c'est le chef actuel de Daesh. La suite, on la connaît.
Et est-ce que la mort d'Adnani, Omar, affaiblit considérablement le groupe État islamique ?
Oui, si l'on en croit The Daily Star, quotidien anglophone, selon lequel la mort d'Adnani est un coup très dur pour les djihadistes qui perdent là un porte-parole, mais aussi un tacticien et surtout une icône charismatique pour des milliers de jeunes du monde entier. Pour le quotidien anglophone, Adnani sera difficilement remplaçable. Le quotidien Lorient Le Jour va plus loin encore. Il considère que le groupe État islamique n'est plus en mesure de protéger ses leaders et donc que les jours de Baghdadi, le calife autoproclamé, sont comptés.
Omar Waman en direct de Beyrouth, merci. Et bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
En direct de Berlin, la presse allemande, Cyril, qui se consacre tout entière ces jours-ci au premier anniversaire de la crise des réfugiés.
Il y a tout juste un an, hier, au plus fort de la crise, alors que les réfugiés affluaient par milliers chaque jour à la frontière allemande, Angela Merkel s'adressait à ses compatriotes avec cette phrase « Wir schaffen das, nous y arriverons ». Trois mots qui sont entrés dans l'histoire, écrit la Süddeutsche Zeitung. Trois mots repris, détournés, utilisés à tout bout de champ depuis un an pour saluer ou au contraire pour critiquer la politique de la chancelière. Le journal de Munich publie justement un long entretien avec Angela Merkel où pour la première fois elle fait son mea culpa. Pas, non pas pour avoir ouvert les frontières aux migrants, mais pour avoir trop longtemps ignoré le problème. L'Allemagne aurait dû plutôt, dit-elle, travailler à une solution européenne et aider les pays en première ligne, comme l'Italie et la Grèce. Pour le reste, la chancelière est toujours déterminée. Elle se veut rassurante. L'Allemagne restera l'Allemagne avec ses valeurs qui la rendent si attractive. Une réponse aux inquiétudes qui se font entendre dans la société allemande face au choc culturel que représente l'arrivée simultanée d'un si grand nombre de réfugiés.
Et justement, Cyril, à quoi ressemblera l'Allemagne en 2025? C'est la question que pose le Frankfurter Allgemeine.
Oui, le grand quotidien conservateur a imaginé deux scénarios à l'horizon 2025. Le premier se veut plutôt positif, sans tomber dans l'angélisme. L'Allemagne serait par exemple frappée par deux attentats suicides en 2017. Les populistes de l'AfD feraient leur entrée au Bundestag avec 15% des voix. Mais la société allemande tiendrait bon. Les programmes d'intégration des réfugiés, le système de répartition dans les Länder éviteraient la formation de ghettos. Même le Brexit serait vécu comme un événement positif puisqu'il pousserait l'Europe à agir. L'Allemagne y arriverait et serait en 2015 une société multiculturelle plutôt apaisée. Mais ça ne se passera pas forcément aussi bien. Les chercheurs qui sont sollicités par le journal ont échafaudé l'autre scénario, une dystopie bien plus sombre, avec là aussi des attentats, l'AfD au Parlement, mais une société allemande déchirée, tentée par le repli sur soi et des migrants amers, victimes du rejet, de l'exclusion, à la clé montée des communautarismes et forte hausse de la criminalité dans les grandes villes allemandes. Pour éviter ce scénario, les chercheurs voient deux éléments capitaux. Un, la réussite de l'intégration sur le marché du travail et deux, la possibilité qu'une partie des réfugiés repartent dans leur pays quand la situation se sera améliorée. Ce sera un long chemin, conclut l'article Labour. Wir können es schaffen. Nous pouvons y arriver.
Tout autre sujet pour finir, Cyril, la rentrée des classes avec ce mot d'ordre à la une du Spiegel. Laissons vivre les enfants. C'est pas mal comme slogan.
Ben voilà, c'est la fin des vacances, c'est la fin de la liberté aussi. Il faut repartir à la chasse aux bons résultats, mais les notes à l'école ne font pas tout. Le Spiegel prend position pour un système scolaire moins compétitif. La journaliste Kerstin Kuhlmann a sillonné l'Allemagne à la rencontre de profs et d'écoliers qui expérimentent par exemple des temps de classe uniquement consacrés à la créativité, au vivre ensemble. À Munich, elle a croisé le directeur de l'université technique qui affirme que les meilleures notes n'engendrent pas nécessairement les meilleurs chercheurs. Le Spiegel en veut pour preuve des hommes politiques ou des stars des médias en Allemagne qui étaient tous des cancres à l'école, comme cet ancien ministre des Finances, Peer Steinbrück, qui a redoublé deux fois, qui a eu son bac à 21 ans. Malgré tout, la grande majorité des Allemands restent convaincus que les bonnes notes sont la clé de la réussite dans la vie. Il faut dire qu'en Allemagne, la note au baccalauréat est l'alpha et l'oméga. Elle conditionne en grande partie l'orientation des futurs étudiants et l'accès aux meilleures études.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Merci.
7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, vous nous emmenez ce soir au Japon pour évoquer un phénomène qui inquiète de plus en plus les autorités, le jikie business.
Oui, autrement dit le business, le commerce si vous préférez, des lycéennes. Ces adolescentes japonaises âgées de 15 à 18 ans qui vendent quotidiennement ou occasionnellement au mieux leur seule présence et leur discussion, au pire leur corps. Phénomène qui s'accentue d'année en année au Japon. Un récent et contesté, on va le voir, rapport de l'ONU estimait ainsi que 13% des écolières japonaises acceptaient de tels rendez-vous rémunérés, dénonçant même, je cite, « une tolérance sociale et institutionnelle face à la délinquance sexuelle autour des mineurs, mineurs dont l'image archétypale fascine les Japonais ». Et pas que. Or là, on n'est pas dans un manga, on en est même très loin. Bonsoir Karine Nishimura Poupée, en direct de Tokyo.
Bonsoir Michael.
Direction donc avec vous Karine, le centre précisément de Tokyo, au milieu des bars, des néons, des badauds et de ces dizaines de jeunes filles.
Jupette à carreaux, chaussettes blanches, chemisier et cravate, l'uniforme de la lycéenne japonaise est reconnaissable entre mille. Plus qu'une tenue, c'est un symbole, celui de la jeune fille kawaii, mignonne et sexy. Le fantasme des lycéennes est tel qu'il a généré ces dernières années le JK business, autrement dit, le commerce des lycéennes.
17歳の女子高校生の
Dans le quartier d'Akihabara à Tokyo, autrefois réputé pour ses magasins d'électronique, des lycéennes vont et viennent sur les trottoirs, faisant de temps à autre des clins d'œil à des employés de bureau désœuvrés ou jeunes adultes esselés qu'elles finissent par entraîner aux étages élevés d'un immeuble d'une petite rue excentrée. Dans la version gentille, il s'agit juste de discuter ou jouer à des jeux de société idiots autour d'une table pour distraire ces messieurs, ou encore de se promener ou de s'allonger côte à côte sans plus. Dans la version dure, cela va évidemment jusqu'à la relation sexuelle. Nous avons interrogé une de ces lycéennes de 17 ans qui nous a confié hors micro faire ce travail en tout bien tout honneur. Elle est bien payée, ses parents sont d'accord et elle ne voit aucun mal, au contraire, à exploiter ce qu'elle appelle l'image de marque de la lycéenne. Son patron, qui entretient plusieurs activités avec des lycéennes à Akihabara, nous a lui aussi assuré ne pas enfreindre la loi.
Et face à de tels témoignages, Karine, face aussi à la multiplication des enquêtes, pour l'instant légères, on dira ça comme ça, est-ce que le gouvernement songe enfin à légiférer ?
Le gouvernement non, mais les autorités locales peuvent décréter des interdictions comme l'a déjà fait la préfecture d'Aichi, dont la police est prête à agir.
Je veux que vous agissiez avec la détermination de fermer tous les lieux qui font commerce de lycéennes, en apportant la preuve de l'illégalité qu'on sache vraiment ce qui se passe.
À Tokyo, un décret spécial est aussi en préparation, mais les commerçants de lycéennes réfléchissent à une parade et ceux qui se disent honnêtes craignent qu'une interdiction ne renforce au contraire les activités souterraines les plus dangereuse. Voici ce qu'en disait il y a quelques semaines la chaîne publique NHK.
Les autorités posent les bases d'un décret encadrant le commerce des lycéennes. Mais parce que les établissements changent de nom en très peu de temps et que certaines prestations sont en extérieur, c'est un phénomène très difficile à surveiller.
Du point de vue des organismes étrangers luttant contre la pédopornographie, le Japon est tout bonnement laxiste.
Il y a au Japon de nombreuses formes d'exploitation sexuelle. Je fais tout particulièrement référence au phénomène dit enjokosai, l'assistance relationnelle, sachant que 13% des jeunes japonaises sont impliquées dans ce genre d'activité.
Quand une représentante de l'ONU a eu l'audace de dénoncer la tendance des lycéennes japonaises à accepter l'exploitation de leur image et de leur corps en citant le chiffre de 13% de filles concernées, le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de réclamer des excuses pour ce pourcentage jugé erroné, au lieu de se pencher sérieusement sur un phénomène pour le moins inquiétant.
Pour commencer, le chiffre de 13%
repose sur des fondements et des sources extrêmement obscures. Notre pays a donc demandé par la voie diplomatique que cette référence soit retirée et que le rapport de l'envoyé spécial soit rédigé sur la base de données objectives.
Quant aux médias, ils présentaient là souvent le commerce des lycéennes comme un simple divertissement pour salariés harassés.
Karine Nishimura, poupée, correspondante de France Inter à Tokyo, merci beaucoup. J'ajoute que face à cette commercialisation de la sexualité, les ONG viennent d'envoyer une pétition au ministère japonais de la Santé pour revoir la loi sur la protection de l'enfance et donc pousser enfin le gouvernement nippon à réellement agir.
Et en bref, Michael, l'Allemagne qui réfléchit à une loi qui pourrait contraindre les femmes à avouer leurs relations extra-conjugales.
Et la réflexion est même très avancée, Nicolas, puisque le projet de loi a officiellement été présenté cette semaine en Conseil des ministres, texte qui entend forcer les mères allemandes à révéler le nom du père biologique de leur enfant lorsque la paternité est contestée. Le rapporteur du texte souhaite, je cite, « donner des recours légaux dans les cas d'enfants coucou ». Selon ce projet, un homme contestant la paternité de l'un de ses enfants pourrait demander à la justice de forcer sa partenaire à révéler le nom du ou des amants fréquentés au moment de la période de conception de l'enfant et ainsi ensuite obtenir des réparations. Nous voulons assurer davantage de droits et de moyens de recours légaux aux faux pères, a expliqué lundi le ministre allemand de la Justice, Heiko Maas. Et de fait, si le projet de loi est adopté par le Bundestag, le Parlement allemand, un homme obtenant la preuve qu'il n'est pas le père biologique de son enfant sera en droit d'exiger un remboursement des frais d'entretien de l'enfant sur une période de 2 ans, sans préciser pour l'instant quelles pourraient être les sanctions encourues par les mères qui refusent d'avouer la vérité. Le ministre s'est contenté de préciser tout de même que certaines femmes pouvaient avoir des raisons suffisamment importantes de garder le silence sur la véritable paternité de leur progéniture. Autant vous dire que nombre d'associations allemandes, et pas seulement féministes, montent déjà au créneau. Mais le débat, lui, débutera cet automne au Parlement. Et pour finir, Nicolas, à quel type d'activité vous font penser ces quelques célèbres notes de musique ?
Fastoche, ouais. Indiana Jones.
Indiana Jones, le plus célèbre des archéologues hollywoodiens, historien façon Spielberg, infatigable chercheur de trésors. Eh bien, dans la vraie vie, une équipe d'Indiana Jones polono-allemande, traquée depuis près de 4 mois, et souvenez-vous, on vous en avait parlé ici même, au tout début de l'expédition, cette équipe traquait le célèbre et introuvable train nazi bourré d'or, d'œuvres d'art et de bijoux. 2 trains, en réalité, disparus dans les dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale, en août 45, train dont la trace s'était perdue, selon les sources, en Hongrie, en République tchèque et surtout en Pologne, plus précisément dans le sud de la Pologne, où les nazis avaient de fait construit de gigantesques infrastructures souterraines. Et c'est là que s'étaient donc concentrées les recherches de ces derniers mois des dizaines de chercheurs de trésors professionnels, foreuses, sonars, pelleteuses, et la conviction qu'ils touchaient au but. Les 2 principaux financiers de l'équipe avaient même avancé en mois dernier qu'ils étaient à 2 doigts de la plus colossale découverte de ces 60 dernières années. Eh bien non, que dalle, rien. Ils ont officiellement abandonné les recherches il y a 10 jours. Et les derniers camions ont quitté le sud de la Pologne hier matin. Mais attention, ils se dirigent maintenant vers la Hongrie. À suivre et à lundi, Nico.
À lundi, Michael.
Hey, wake up!
No!
Un jour dans le monde.
What?
Nicolas Demorand.
Oh my God!
Et direction le Brésil, double actualité. Bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
Double actualité car hier la présidente Dilma Rousseff a été destituée par le Sénat brésilien et remplacée par Michel Temer. C'est dans ce contexte, actualité toujours, que près de 50 artistes du Brésil seront présents ce dimanche au Festival d'Île-de-France. Des artistes que vous avez tous rencontrés chez eux à Sao Paulo, Mathieu.
Oui, et parmi ces artistes, on retrouvera dimanche Guilherme Castru, musicien confirmé, 20 ans de carrière. Il dirige à Sao Paulo l'un des studios de production les plus prisées pour la musique indépendante. Il vient au départ de Rio de Janeiro. À l'origine, il est batteur de rock et aujourd'hui, il produit un mélange de jazz, de musique électro, le tout enrobé de psychédélisme à la sauce brésilienne.
Ce fondement de batteur de rock a évolué vers la percussion, influencée par toutes les traditions du Brésil. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une période extrêmement fructueuse en termes de production de musique indépendante. C'est un grand chaudron qui bout. Et ce grand chaudron qui bout est en fait alimenté par la diversité culturelle que São Paulo a attirée de tout le Brésil. Parce que c'est à São Paulo qu'on arrive à vivre sa musique. Attirée par la musique électronique, elle offre une liberté dans la structure de composition et d'utiliser la musique un petit peu comme un art graphique.
Voilà un extrait de la musique de Guillermo Kastrub, l'un des 50 artistes qui seront donc dimanche à cette journée spéciale Brésil, Mathieu, organisée donc par le Festival d'Île-de-France.
Avec entre autres Tulipa Ruiz, elle est très connue en Amérique car elle a reçu un Latin Grammy Awards aux États-Unis pour son troisième album. Une chanteuse qui a travaillé comme dessinatrice de presse pour la version brésilienne du Monde Diplomatique. Une chanteuse poussée par son père, ancien punk de Sao Paulo, Tulipa, qui du coup a une conscience politique assez marquée.
Pedrinho parece comigo mais bien resolvido com sua nudez.
Costumo dizer que eu sou muito influenciada.
Évidemment, très influencée par la musique que son papa jouait sur la platine de gars qui était branché toute la journée à la maison. Quoi.
En premier lieu,
écoutait beaucoup de musique brésilienne, et notamment la musique des années 80, les Tropicalistes de Gil Pétain, ou le Club des Skins de Minas, ou l'avant-garde paulista de São Paulo. Et elle aime beaucoup Johnny Mitchell. La situation que connaît le Brésil actuellement est inévitablement avoir des répercussions dans l'expression artistique. La situation que connaissez est une situation extrêmement dangereuse pour la démocratie. La réalité est qu'une présidente élue démocratiquement a été destituée sans avoir commis de crime. On peut donc considérer que c'est un coup d'État.
Et un impeachment sans crime est un golpe.
Ouais, on entendait la réalité politique du pays, du Brésil, touche de plein fouet les artistes du pays, Mathieu.
Oui, les artistes sont inquiets puisque l'une des premières mesures, faut le rappeler, du nouveau président Michel Temer a été de fermer le ministère de la Culture, un ministère qu'il a ensuite rétabli sous la pression de la rue. Parmi les artistes très très en colère, il y a le groupe Meta Meta, un groupe engagé contre le nouveau président. Écoutez comment ils définissent la formation du gouvernement aujourd'hui.
Premièrement, on ne le reconnaîtrait pas comme un gouvernement. Parce que ce n'est pas un gouvernement qui a reçu des votes, ce n'est pas un gouvernement qui a été élu. C'est un gouvernement qui est le fruit d'une conspiration. Ils ont fait tomber la première présidente femme du Brésil. Je crois que la grande preuve de ça, c'est tout simplement de voir que le vice-président intérimaire, au lieu de donner suite à ce qui avait été enclenché par le gouvernement de Dilma, il s'est complètement allié à l'opposition du gouvernement Dilma pour constituer ce nouveau gouvernement complètement illégitime et illégal.
Il est
important de dire que le projet de gouvernement de l'opposition a été battu à 4 reprises au cours des dernières élections. Je crois que c'est une situation qui est pire que ce qu'on pouvait imaginer. C'est une espèce de coup d'État blanc, à la différence du coup d'État militaire de 1964. Maintenant, c'est un coup d'État qui est complètement appuyé par le pouvoir judiciaire.
Voilà un court extrait du nouvel album de Meta Meta intitulé MM3, sorti vendredi dernier. Ces artistes brésiliens sont à retrouver, je vous le rappelle, ce dimanche au domaine de Villarceau, dans le Val d'Oise, pour le Festival d'Île-de-France. Merci Mathieu.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Et à 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger, que je suis heureux de retrouver. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Direction l'Espagne, Anthony, qui semble décidément ingouvernable.
C'est vrai qu'en regardant les choses froidement, il n'y a pas moyen de décrire les choses différemment. Le New York Times, d'ailleurs, titrait il y a quelques jours « L'Espagne, un pays ingouvernable et d'ailleurs un pays sans gouvernement ». On en a encore une illustration aujourd'hui. 8 mois sans gouvernement autre que technique, 2 élections législatives pour départager 4 partis et toujours pas de majorité parlementaire. Aujourd'hui, la droite du Premier ministre Rajoy a bien essayé d'obtenir un vote favorable de l'Assemblée. Rien n'y a fait. Le Parti populaire, allié aux centristes, n'a obtenu que 170 si contre 180 non et aucune abstention qui laisserait pour demain, c'est le 2 septembre, un peu d'espoir alors que demain une majorité simple suffirait à sortir de l'impasse. Le pire, c'est que l'affaire est devenue quasi personnelle entre le leader socialiste, qui s'appelle Pedro Sanchez, et le Premier ministre, donc Mariano Rajoy. On a même parfois l'impression que la lutte est physique entre ce jeune leader socialiste de 44 ans et son aîné conservateur de 20 ans.
Oui, sauf qu'on n'est pas dans une cour de récréation et qu'il va quand même bien falloir trouver une solution, non ?
Franchement, on n'est pas loin du bras de fer de cour de récréation. Ah, d'un côté, le socialiste jure que la solution est simple, il faut changer le capitaine, il serait prêt à s'abstenir, voire à collaborer, si les conservateurs proposent un autre candidat Premier ministre. Quant aux conservateurs, eh bien lui joue les victimes, il supplie de le laisser gouverner, jure que les socialistes n'ont pas à être d'accord pour s'abstenir. En fait, il essaye d'obtenir une scission au sein des députés socialistes. Et d'ailleurs, certains y seraient prêts, pour le bien de l'Espagne, bien sûr. Ceux-là sont rassemblés autour de l'ancien Premier ministre socialiste, c'est Felipe González.
Oula !
Eh oui, une génération,
pas, ouais.
Exactement, une génération qui a gouverné, qui a écrit la Constitution espagnole et qui voit l'actuel blocage comme le détricotage, vous savez, le détricotage coupable de leur chef-d'œuvre, de leur héritage. En fait, le problème est effectivement à gauche. Comme dans toute l'Europe d'ailleurs, les partis socialistes espagnols, le Parti socialiste espagnol est pris en étau à gauche par plus radicaux que lui, à droite par une aspiration au consensus qui finit par brouiller les lignes. Et on retrouve le même blocage, le même nœud gordien en fait en Grande-Bretagne, où Jeremy Corbyn doit faire face à son aile droite. En Allemagne, où le SPD n'est plus que le partenaire de circonstance d'Angela Merkel. Et même en France,
oula,
où le PS ne sait plus où il habite.
Donc en Espagne, on se dirige, Anthony, vers une troisième élection.
Si aucun des deux leaders de bac à sable cède, et c'est évidemment ce qui risque de se passer. L'ironie de l'affaire, c'est que les élections tomberont, figurez-vous, le jour de Noël, le 25 décembre, à moins que les députés ne parviennent à se mettre d'accord sur une seule et unique chose, avancer d'une semaine l'élection, histoire de ne pas fâcher un peu plus les électeurs espagnols qui, déjà, n'ont que mépris pour leur politique. Maintenant, il reste demain, demain 2 septembre, et surtout 2 mois, pour trouver une solution qui n'oblige pas à retourner une troisième fois aux urnes. Enfin, à qui profite le crime ? Pas aux indignés de Podemos, en tout cas totalement à faune depuis plusieurs semaines. Ce crime démocratique, en fait, affaiblit le centre madrilène et profite à la périphérie catalane. Les Catalans qui jouent sur du velours et qui expliquent qu'eux ont un projet, l'indépendance, et une méthode, l'union, et qu'il est urgent de se séparer de ces sales gosses espagnols.
Anthony Bélanger, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20 ce soir sur l'école. Youpi, c'est la rentrée des classes. Une rentrée un peu particulière parce que c'est la dernière du quinquennat de François Hollande, le président de la République, qui avait fait de l'école, vous vous en souvenez, un chantier prioritaire, notamment pour ce qui est du recrutement des enseignants. Alors, toutes vos questions sur l'école, que vous soyez parent, prof, élève ou citoyen éclairé, 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter, avec le mot-clé Telson. Le journal à suivre.